une réduction de 30% du recours aux pesticides est possible, sans bouleversement majeur des systèmes de production. C'est ce qui ressort d'une étude Ecophyto Recherche et Développement, coordonnée par l'INRA et présentée jeudi 28 janvier devant le Conseil économique, social et environnemental. Radioéthique s'est entretenue avec Pierre Stengel, responsable de l'étude Ecophyto Recherche et Développement et chargé de mission à l'INRA. Donc la bonne nouvelle de cette étude Ecophyto Recherche et Développement, c'est qu'on peut réduire de 30% les pesticides aujourd'hui tout de suite. Est-ce que c'est une base pour construire l'avenir ?
Ben, d'abord, il faut dire que l'on peut techniquement, vous l'avez noté si vous avez regardé l'étude, c'est quand même au prix de quelques baisses de production, notamment en vigne par exemple. Hein. Et par conséquent, les conclusions, c'est qu'on peut faire, que globalement, les baisses de production qui seraient la conséquence de ça sont, disons, limitées, hein, puisque c'est quelques pourcents, disons...
On parle de 6%.
Voilà. Et que donc, a priori, c'est faisable. Cela dit, on ne peut pas considérer qu'une baisse de production même de quelques pourcents est quelque chose qu'on doit totalement négliger. Donc, ça veut dire qu'il faut soit améliorer les performances des techniques pour limiter ces baisses de rendement, soit trouver des moyens pour que ça mette pas en difficulté une partie au moins des exploitations agricoles.
On sait bien que on s'est lancé dans le plan Ecophyto pour 2018 et qu'il était prévu une baisse de 50% de l'utilisation sur 10 ans, donc de 2008 à 2018. Comment est-ce qu'on pourrait procéder là immédiatement pour réduire donc cette consommation de pesticides ?
Bon, alors on revient un peu à la première étape que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la perspective de réduire de 30% sans changer de fondamentalement les systèmes de culture, sans modifier les cultures qui sont pratiquées, et avec des techniques qui sont déjà utilisables. Donc ça crée un premier seuil de faisabilité à moyen terme. 50%, ce que l'étude a montré, c'est qu'on n'y arrivait qu'au prix de changements assez considérables, notamment en introduisant de nouvelles cultures dans les rotations, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile. Et l'idée, c'est que si on veut progresser en ce sens, il faut faire un très gros effort, à la fois en termes d'études de techniques nouvelles, et puis d'adaptation de notre non seulement de la production des agriculteurs, mais des filières tout entières, à la fois pour commercialiser les nouvelles cultures, et puis pour leur fournir les moyens de les mettre en œuvre, notamment en produisant des semences améliorées, etc. Donc, on voit bien qu'il y a deux termes assez différents. Alors, pour répondre à votre première question, le fait déjà d'avancer à une hauteur qui se situe aux alentours de 30% serait déjà un changement assez considérable des pratiques et manifesterait un progrès sensible pour réduire les apports de produits polluants dans l'environnement. Donc, on est plutôt optimiste quand on se dit qu'on peut le faire, au moins jusqu'à 30%. Moins optimiste pour les 50% du Grenelle de l'environnement et moins certains qui sont accessibles en 10 ans. Mais si déjà, dans les années à venir, on a une manifestation de réduction forte, on pourra être plus optimiste et assez satisfait pour la suite.
Si je vous comprends bien, sans changement de pratique substantielle, on peut quand même tout de suite réduire. Mais alors, voilà. On a une baisse de productivité d'environ, plus ou moins selon les cultures, 6%. Mais là, oui, on diminue simplement la dose, c'est tout.
C'est ça, oui.
Est-ce qu'il y a aussi des contrats selon les régions ? Parce qu'il y a des problèmes particuliers, il y a des grands producteurs qui font de la monoculture, et là, évidemment, ils peuvent pas se passer de pesticides.
Ben, c'est un peu la question de la protection ou de la production intégrée, où effectivement, pour aller assez loin dans les réductions et atteindre les 50%, il faut rediversifier l'agriculture. Et bien sûr, sur des très grandes exploitations qui sont non pas en monoculture, mais avec un tout petit nombre de cultures, souvent trois ou pas plus, voire deux, ça peut poser beaucoup de problèmes, puisqu'il faut trouver les cultures pour rediversifier, il faut réorganiser l'exploitation, il faut trouver de nouveaux marchés. Cela dit, il y a déjà des agriculteurs qui s'y sont essayés et qui y parviennent, donc c'est pas non plus quelque chose qui est complètement impossible. Seulement, s'il y a une minorité d'agriculteurs qui met en place une nouvelle filière, elle peut trouver des débouchés et un peu de niche. Si ça se généralise, bien sûr, il faut monter une nouvelle filière. filière, de stockage, de commercialisation. Donc on voit que c'est plus difficile. Et puis, on sait aussi que dans ces très grandes exploitations, le facteur limitant, c'est la main-d'œuvre. Et si on diversifie, si on veut se passer davantage de pesticides, il faudra passer un peu plus de temps dans les champs, et notamment du temps pour observer les développements des ravageurs. Et souvent, les très grandes exploitations sont gérées avec un tout petit effectif de main-d'œuvre qui ne permet pas de libérer ce temps. Donc, c'est à la fois une question de taille d'exploitation et d'emploi sur ces exploitations.
Quels sont les leviers d'action qui pourraient favoriser un changement de pratique?
Bon, alors le levier qui est choisi dans Ecophyto, c'est dans le plan Ecophyto 2018, issu du Grenelle, c'est le levier de la formation, de l'exemple, de la conviction. On peut imaginer que derrière, autour notamment de la labellisation haute valeur environnementale des exploitations, il y ait, pour obtenir le label, des conditions qui aillent dans le sens de la réduction d'usage des pesticides et de techniques qui évitent leur dissémination dans l'environnement. Mais tout ça, pour l'instant, ne produit pas une incitation de type économique ou réglementaire forte. Alors, qu'est-ce qui va apparaître de nouveau? Bien, il va y avoir l'application de la directive européenne, ou plutôt du paquet pesticides des directives européennes, une sur l'homologation, et l'on sait que ça va réduire probablement le nombre de molécules disponibles. Et évidemment, si on interdit des pesticides, il faut bien trouver des techniques de substitution s'il n'existe pas de molécules de remplacement. Et puis une forte incitation à ce que les États membres mettent en place une stratégie et un plan de développement de la protection intégrée. Donc, est-ce qu'autour de ça, de nouvelles mesures, soit incitatives, soit contraignantes, vont être mises en place? À ce stade, il est un peu tôt pour le dire. Ce qu'on a vu dans l'étude, c'est que des mécanismes d'incitation ou de taxation, ou plutôt les deux en même temps, pourraient avoir un effet efficace. Alors, évidemment, personne dans chez les professionnels de l'agriculture ou chez les marchands de produits ne souhaitent évidemment un niveau de taxe élevé sur les pesticides pour réduire leur usage, et sans doute ce serait très difficilement supportable dans les conditions économiques actuelles de l'agriculture. Mais on a vu par exemple qu'une subvention à l'agriculture biologique pouvait être rapidement efficace pour augmenter la surface et puis pour réduire l'usage. Donc on voit bien que les deux mécanismes pourraient être utilisés, taxation et subvention, mais on peut aussi imaginer que dans les futures réformes de la PAC, les conditionnalités des aides soient plus strictes concernant l'emploi de pesticides. Donc beaucoup de mesures sont possibles. Pour l'instant, on ne sent pas encore, ou on ne sait pas encore, lesquelles seront utilisées par les États de l'Union, puisque ce ne sera pas uniquement sans doute une politique française.
Pour l'instant, vous proposez déjà de créer des fermes pilotes.
Oui, pour l'instant, on est plus à se dire, pour que les agriculteurs changent, alors qu'on a constaté que même si les productions diminuaient, leur marge n'était pas diminuée, notamment jusqu'à 30%. Donc, ils n'ont pas a priori à perdre, à changer. Dans ces conditions-là, on peut se dire que les effets de démonstration, de preuve qu'ils peuvent utiliser d'autres techniques sans y perdre devrait largement contribuer à les faire changer. Donc l'idée est celle-là, et c'est vrai que sans doute jusqu'à un certain seuil, c'est plus une affaire de comportement collectif et de sécurité par rapport aux risques sanitaires que courent les cultures qui devrait être le moteur. Et on sent bien qu'une des réticences énormes des agriculteurs, c'est de dire, vous me proposez des techniques, mais finalement, vous n'avez pas démontré chez moi ou à proximité de chez moi qu'elles peuvent marcher.
Je ne prends pas le risque.
En conséquence, je ne prends pas le risque, ce qu'on peut comprendre assez bien, bien sûr.
Il y a une réaction un petit peu incrédule de la FNSEA aujourd'hui.
Oui, et quelque part, elle reflète à la fois une situation de difficulté conjoncturelle de l'agriculture, qui est quand même confrontée à des marchés qui sont un peu déprimés avec des prix assez bas, mais elle reflète sans doute aussi le caractère un peu dubitatif de ses adhérents, qui se disent, on me demande de lâcher quelque chose qui est finalement très efficace, même s'il y a des problèmes de résistance aux pesticides, pour quelque chose dont on me dit que ça peut marcher, à condition que techniquement j'apprenne à le faire, et pour laquelle je n'ai pas de garantie, alors que je vais être le seul à assumer le risque, en gros, hein, c'est un peu ça. S'il y avait derrière, je ne sais pas, un système d'assurance qui permette de couvrir ce risque, il serait peut-être moins incertain. Mais là, on leur demande de courir le risque individuellement, sans garantie a priori. Donc, on comprend que collectivement, les organisations professionnelles, ou au moins une partie d'entre elles, soient prudentes.
Bien sûr.
Alors, est-ce qu'elles changeront d'avis à terme? C'est très possible. C'est-à-dire que les agriculteurs n'ont pas de raison d'être des fanatiques des pesticides en tant que tels. Ça leur coûte de l'argent.
Ils sont considérés comme très pollueurs. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'il y a une demande de la part du public et du consommateur vers une alimentation un petit peu plus, est-ce qu'on peut dire, bio, enfin, plus écologique.
Voilà. C'est mauvais pour leur image. Et en plus, si ça a un impact sur la santé, ils sont malheureusement les premiers concernés et les premières victimes. Donc, je pense que ne serait-ce que à cause de ce dernier argument, ils sont sans doute collectivement plutôt convaincus qu'il faut changer et être plutôt parcimonieux avec ces molécules qui sont toxiques. Donc sans doute ils aspirent à changer, mais à changer dans la sécurité et sans y perdre d'argent si possible, bien sûr, on comprend.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi la force du lobby de ceux qui produisent les pesticides? Le secteur phytosanitaire a un chiffre d'affaires en augmentation constante.
L'industrie phytosanitaire, elle, en tout cas, son chiffre d'affaires n'a pas diminué. Si les quantités en masse se sont réduites, c'est beaucoup parce qu'on a remplacé des produits qu'on utilisait en très forte dose par des produits qu'on utilise à plus faible dose. Mais son chiffre d'affaires n'a pas diminué. Mais elle n'a pas nécessairement intérêt non plus à avoir une stratégie de défense systématique de tous ces produits, de toutes ces molécules. Et son intérêt est aussi à ce que la contrainte, notamment réglementaire, lui permette de développer des produits nouveaux qui auraient moins d'inconvénients que les précédents. Donc c'est sans doute la stratégie de l'industrie phytosanitaire, que je connais pas bien, n'est pas nécessairement une espèce de blocage, mais plutôt une défense d'un progrès technologique dont elle espère bien être contributrice. Il n'y a pas que l'industrie phytosanitaire qui est concernée, hein. Bien sûr, les gens des filières de collecte qui achètent les produits ont aussi intérêt à ce que les volumes soient les plus importants possibles. Donc, ils sont plutôt attachés à ce que les rendements se maintiennent. Mmh. Alors que l'intérêt des agriculteurs n'est pas nécessairement de maintenir les rendements, mais plutôt de maintenir leurs bénéfices. Donc, vous voyez, plusieurs intérêts peuvent conjointement s'opposer au changement, même s'il n'y a pas derrière une volonté collective d'empêcher toute solution nouvelle, mais c'est en gros aussi un des résultats de l'étude, c'est de montrer que chacun attend un peu que l'autre bouge, donc que les marchés nouveaux apparaissent, que des besoins de technologies nouvelles ouvrent de nouveaux marchés et que les règlements permettent à ces marchés de se développer. Donc il y a une espèce de jeu collectif sur lequel seuls les pouvoirs publics peuvent finalement agir.
Vous, en tant que chargé de mission de l'INRA, comment voyez-vous l'évolution de l'agriculture dans les années 2020?
On voit qu'elle a à la fois la contrainte de produire plus et ou au moins autant, hein, pour répondre aux besoins alimentaires mondiaux et de répondre, ça nos concitoyens l'attendent, de façon plus efficace à la double attente de qualité et de sécurité des produits et de qualité de l'environnement. Alors tout ça, on voit bien que ça peut apparaître un peu contradictoire. Donc on voit bien qu'il faut à la fois offrir des changements de technique possibles à partir de ce qu'on sait maintenant, hein, c'est ce qu'on appelle une agronomie écologique, et en même temps compter sur des progrès technologiques, notamment en génétique ou dans les biotechnologies en général. Alors je ne parle pas seulement d'OGM, encore que pourquoi pas s'ils étaient très bénéfiques soit pour l'alimentation, soit pour l'environnement, ce qu'on peut toujours imaginer.
Vaste débat.
Mais aussi de moyens de biocontrôle des ravages. ravageurs, de molécules qui stimulent la défense des plantes, etc. Donc, on aura besoin de toute façon de beaucoup d'innovations technologiques si on veut répondre à tout cela en même temps. Et ce qui serait inquiétant, c'est que on sacrifie la production aux besoins de protection de l'environnement, puisque là, ben, on aurait pour conséquence l'augmentation des prix, et puis la non-satisfaction des besoins de soit de nos concitoyens, soit de populations dans d'autres pays. Et en même temps, ben, si on pense à l'entretien de la biodiversité ou à la lutte contre l'effet de serre, on voit bien qu'il y a absolument besoin de réduire les impacts environnementaux, voire de les rendre positifs. C'est vraiment l'enjeu de la recherche. Ça nous fait quelque part un peu peur parce que le défi est considérable, mais en même temps, on sait bien que il faut que ça bouge. Si on prend par exemple les problèmes d'effet de serre, on voit bien qu'à terme, l'agriculture peut devenir assez rapidement le premier émetteur de gaz à effet de serre dans un pays comme le nôtre. Et donc, il faut qu'elle réduise ses émissions exactement comme devront le faire les producteurs d'énergie ou les conducteurs de voitures.